entre les musulmans et les chasseurs universels. J'ai réfuté totalement ce que
j'ai dit. Moi, c'est Céline de Courroissy, au Casangas. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'amis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci d'être branchés sur Radio Capi en FM ou connectés sur www.radiocapi.net. Bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, l'émission qui permet de vous exprimer sur des faits d'actualité de la RDC. Ce mardi, Parole aux auditeurs poursuit la série d'émissions consacrées à la célébration des 50 ans d'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, nous parlons diplomatie, qui est la mise en œuvre de la politique étrangère par l'intermédiaire des diplomates. La RDC, par sa position géographique, sa position stratégique au centre de l'Afrique, sa superficie, ses richesses minières, ses ressources humaines, lui donnent un rôle clé en Afrique aussi dans le monde, dans plusieurs domaines. La politique étrangère de la RDC, en tant que puissance émergente, pays en voie de développement, a connu depuis 1960 à ce jour une évolution selon les périodes de son histoire. Pour lancer notre émission, voici la question: quelle politique étrangère pour la RDC après 50 ans d'indépendance? Parole aux auditeurs, invité pour vous, M. Raymond Ramazani Baya. Il est sénateur, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur. Il est également ancien ministre de l'Information. Sissi Mpoutou, Benia Mafinda et Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Et Dieudonné Nyangasa est à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
50 ans d'histoire, ça se raconte sur Radio Capi.
Bonjour Monsieur Raymond Ramazani Baya.
Bonjour.
Avec vous et les auditeurs, nous allons discuter de la politique étrangère de la RDC. En fait, la RDC, par sa position géographique, sa position stratégique au centre de l'Afrique, sa superficie, ses richesses minières, ses ressources humaines, lui donnent un rôle clé en Afrique et aussi dans le monde. La politique étrangère correspond aux choix stratégiques et politiques des plus hautes autorités de l'État, et en RDC, elle relève en fait du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères en RDC, aussi vous savez très bien comment en fait tout ce qui se passe sur le plan international, comment en fait se présentent les relations étrangères de la RDC de 1960 à nos jours, en tenant compte bien sûr des périodes de l'histoire de la RDC, par exemple la période de Kassavubu, période de Mobutu, période de Kabila père, aujourd'hui période de Kabila fils. Sur le plan international, comment peut a évolué cette politique étrangère?
Je vous remercie beaucoup de l'occasion que vous m'offrez pour parler avec les auditeurs, avec vos auditeurs. Vous me demandez un peu là de faire le bilan en fait de la politique étrangère de la République. Faire le bilan, c'est un peu comparer. Et on ne peut comparer que des choses similaires, comparables. Le problème ici, évidemment, c'est que le contexte a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Dans les années 60, lorsque le Congo a accédé à l'indépendance, nous nous trouvons en face de deux blocs idéologiques. Le pays de l'Est, le bloc dominé par l'Union soviétique, et le camp capitaliste dominé par les États-Unis. Et le Congo, qui accède à l'indépendance, fait l'objet d'énormes controverses entre l'Est et l'Ouest. Je vous rappelle qu'il fut un moment même pour montrer cette division dans notre pays, où il y avait deux capitales au Congo. Nous avions une capitale à Kisangani, chez moi donc, où il y avait des ambassades, l'ambassade de Chine, l'ambassade d'Égypte, l'ambassade du RSS, de Cuba, où les pays progressistes, donc dans le camp de l'URSS, avaient leurs ambassades à Kisangani, tandis que les autres, donc la Belgique, la France, avaient leur ambassade à Kinshasa. C'est bon. Je suis certain que beaucoup de jeunes aujourd'hui
ne savent pas.
Or, ça, c'est une réalité. Quand vous allez à Kisangani aujourd'hui, on vous montrera la résidence de l'ambassadeur d'Égypte à l'époque où l'ambassade de l'Égypte était accréditée à Kisangani auprès du gouvernement Gizenga à l'époque. parce que tous les nationalistes avaient quitté tout ça, ils sont partis s'installer, après ça, nous avons créé un gouvernement. Donc,
cette bipolarité, en fait, ça a suivi la période Kassavubu, période Mobutu, et vers les années...
Mobutu, mais déjà avec Mobutu, en 1990, je crois, ou 91, c'est la chute du mur de Berlin.
Mmh.
La chute du mur de Berlin, symboliquement, représente la fin des blocs, la fin de, du bloc communiste en tous les cas, et tout le monde se range un peu.
La suprématie du capitalisme.
La suprématie du capitalisme, c'est la domination du marché qui s'impose partout. Mmh. La Russie explose, implose. Nous avons la Russie qui se range,
mmh.
et même la Chine qui entre à l'OMC.
Mmh.
Donc aujourd'hui, c'est un peu le règne du marché, c'est la mondialisation qui a commencé. Cette mondialisation, on peut l'aimer, on peut s'en désoler, c'est un fait, c'est un phénomène irréversible, c'est une tendance lourde de politique étrangère, il faut s'y adapter. Le Congo essaie de s'y adapter. Ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que, en dépit des turbulences des années 60, nous avions tout de même une diplomatie, quoique tatillonne, mais qui se faisait entendre. Qui faisait entendre sa voix, je crois, non pas seulement sur des questions africaines ou congolaises, mais sur des grandes questions qui divisaient le monde à l'époque. Nous avions, je crois, l'ambition d'être véritablement une puissance à l'Afrique centrale. Il y avait un peu d'illusion, un peu de rêve, mais nous avions cette ambition et nous nourrissions ce rêve, qui, je pense, aujourd'hui, malheureusement, a disparu. Cela n'est pas simplement du fait de dirigeants actuels, parce que bon, vous savez, je suis de l'opposition, on va croire que je me lance dans une critique facile.
Mm-hmm.
C'est le contexte.
C'est le contexte actuel.
Nous parlions et on nous entendait. Aujourd'hui, même si on ne peut pas dire qu'il y a véritablement échec, mais on nous entend beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Je prends le cas de l'Afrique centrale, notre région. Depuis une vingtaine d'années, l'Angola, que nous avions à l'époque aidé, tout en combattant le MPLA pour qu'il accède à l'indépendance, eh bien, l'Angola est montée, a connu une montée fulgurante. L'Angola s'est imposée comme puissance régionale, pratiquement, aujourd'hui, parce qu'elle a une armée, elle a les ressources, autour de 40 milliards de dollars, c'est pas rien, et là, l'Angola a un pouvoir stable et fort.
Et cela n'est pas dû à toute notre histoire du pays, parce qu'à un certain moment, à l'époque de Kabila père, c'était comme si on s'était un peu renfermé sur nous-mêmes. Il y avait même le nombre d'ambassades à l'étranger qui avait même diminué. Oui. Et maintenant, avec Kabila fils, on a l'impression que les choses essaient un peu de remonter.
Nous avons effectivement connu une descente aux enfers, mais on n'a pas peur de mots. Mais cela n'est pas dû seulement à Kabila père. Depuis l'histoire des étudiants de Lubumbashi, souvenez-vous-en, c'est peut-être un peu jeune. Oui, alors le Congo a connu un isolement politique assez important.
Dans la fin des années Mobutu.
Voilà, donc l'arrivée même de Kabila, qui a été facilitée par un certain nombre de puissances, était déjà le signe de l'échec sur le plan diplomatique. Parce que dans ce pays, à chaque fois que le pays était menacé d'explosion ou d'implosion, on a fait appel malheureusement aux étrangers. Et Mobutu, plusieurs fois, a fait appel soit aux Belges, soit aux Américains, soit aux Français, soit aux Marocains. Cette fois-là, personne n'est venu. Et au contraire, je crois que la plupart de ces pays, y compris les États-Unis, ont facilité plutôt la tâche à Kabila, à la FDL, au conglomérat qui était composé par la FDL et un certain nombre de pays africains tels que l'Ouganda, le Rwanda, tout ça, on connaît bien l'histoire. C'était déjà le déclin sur le plan diplomatique au niveau de la République démocratique du Congo ou du Zaïre à l'époque. Alors, Kabila père, c'est vrai qu'il n'a pas défini une ligne politique claire. Et là, on a continué encore à tâtonner. Et je crois que sur le plan diplomatique, ça ne nous a pas beaucoup servi.
Et on a beaucoup perdu.
On a beaucoup perdu.
Mais en fait, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent se retrouver en fait, dans cette question de politique étrangère, à quoi sert une bonne politique étrangère pour la RDC?
Écoutez, pratiquement pour tout le pays au monde, les objectifs sont pratiquement les mêmes.
Mmh.
Hein, c'est la sécurité d'abord.
Mmh.
La prospérité, les échanges commerciaux, l'aide, mais autour de ces gros objectifs, Il y a pour chaque pays, en ce qui me concerne, quand j'étais au gouvernement, moi je suis arrivé au gouvernement en juillet 2004, j'en suis parti tout au début de 2007, le texte de base, c'était l'accord global inclusif, signé à Pretoria, à Saint-Titi. Cet accord nous demandait de pouvoir rompre l'isolement diplomatique dans lequel se trouvait le Congo. Deux, il fallait assurer le rayonnement international du Congo. Il fallait sensibiliser la communauté internationale pour que celle-ci puisse appuyer les efforts de la République en matière de réorganisation de l'armée, en matière de la remise en état d'un État de droit sur l'ensemble du territoire national, en matière de l'éducation, de la santé, dans tous les secteurs de la vie, en fait. Et à l'intérieur, vous avez des objectifs mineurs, mais qui sont importants, tels que la politique de bon voisinage avec les pays voisins, la réorganisation de nos ambassades. Alors, on s'y est pris, tant bien que mal, on a essayé de trouver des solutions concrètes à toutes ces questions. On est arrivé, on n'y est pas arrivé, je ne suis pas la personne la mieux placée pour faire un bilan, vous savez bien que chacun essaie de tirer la
couverture. Chacun a son avis.
Chacun a son avis, chacun a sa vision des choses, mais je pense qu'on a, avec les moyens qu'on avait, parce que le gros problème de la politique extérieure congolaise, il ne faut pas se cacher, c'est un problème de moyens. Nous manquons terriblement de moyens.
Donc, c'est pour, en fait, quand on fait cette politique étrangère, c'est pour l'intérêt général de la population.
Absolument.
Nous allons écouter Jacques qui est à Goma, Gloria Matadi et Serge Abouya.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Jacques.
Bonjour madame.
Demain, on va fêter les 50 ans d'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, nous parlons politique étrangère de la RDC. Selon vous, quelle politique étrangère pour la RDC après 50 ans d'indépendance?
Oui, en parlant de la politique, non loin de la politique d'ailleurs, moi je dirais que la politique existe, la politique étrangère existe dans notre pays. Vous savez, notre pays fait parmi les diplomates, les experts diplomates d'ailleurs. Mais moi, j'ai une allusion à moi de dire que la RDC est considérée comme un animal plein d'anesthésie. Où vous pouvez infliger n'importe quelle partie et l'animal à soi ne sentira absolument rien, ne peut plus même se mouvoir. Alors, moi, j'ai un seul regard dans cette solution. De faire appel à la volonté de tous les décideurs politiques et opérateurs même politiques. Seulement la volonté qui est moi, je fais appel et allusion aux états politiques.
S'il vous plaît, Jacques, on voudrait savoir pour vous si on a une bonne politique étrangère, qu'est-ce que cela peut apporter à notre pays?
Mais si on a une bonne politique étrangère, madame, nous aurons beaucoup de relations, nous aurons beaucoup de fenêtres qui vont s'ouvrir, mais aujourd'hui, du point de vue économique du pays. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés, madame. Et pour la bonne politique, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut se parler à des termes la cage politique et économique, mais s'il y a la bonne politique, tout ira bien. C'est ça, mon point de vue, madame.
Merci, Jacques. Vous êtes à Goma. Bonjour, Glory. Glory?
Oui, bonjour madame.
Vous êtes à Matadi, on vous écoute. Quelle politique étrangère pour la RDC après 50 ans d'indépendance?
Oui, après 50 ans d'indépendance, en tout cas, excusez-moi madame, le bilan est largement négatif. Largement négatif, et si nous devons penser pour le futur, c'est-à-dire après le 30 juin, à partir du 1er juillet 2010, moi je me dis qu'il faut savoir tout d'abord que les relations internationales ou les relations diplomatiques ou encore les relations entre les hommes dépendent de la puissance, dépendent de la force. Or, la puissance, la force, ce sont des éléments qui proviennent de l'intérieur. C'est-à-dire l'homme congolais, où qu'il soit, parce que c'est toujours l'individu congolais qui quittera de sa famille, de sa commune pour devenir président de la République, ministre ou je ne sais pas à quelle autre fonction. Il faudrait que l'homme congolais soit fort intérieurement et puissant intérieurement. Et vous savez, madame, moi ça me fait honte, hein, parce que la lecture des autres dirigeants d'ailleurs, ou bien sûr ceux qui sont censés traiter les relations, ceux qui sont censés avoir des relations avec notre pays, c'est-à-dire les relations diplomatiques, il suffit d'observer la plupart des commentaires faits sur nos dirigeants, c'est toujours négatif. Et c'est comme ça que je dis, moi j'ai toujours honte que ailleurs, au Japon, en France, en Belgique, chaque fois qu'on voit un Congolais, moi personnellement, si on les voit, on dit voilà, celui-ci, son pays ne vaut rien du tout. Parce qu'à la tête, ou chaque partout où nous sommes représentés, ces gens-là ne donnent qu'une image négative. Et ce que moi je vais demander à nos politiciens, à tout Congolais, d'abord à tout Congolais, et à nos politiciens, parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui au créneau, que nous puissions développer la culture de la grandeur. Parce que la corruption, c'est la culture de la petitesse. Beaucoup de choses que nos politiciens font ne donnent pas vraiment une image positive et intéressante aux Congolais et aux Congolais.
Oui. Aujourd'hui, voilà. Nous parlons des perspectives d'avenir, ce que nous pensons pour un Congo de demain. Quelles sont les propositions? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que l'image de la RDC est ternie au niveau de l'extérieur. Qu'est-ce que pourrait être fait? Quelles sont vos propositions pour pouvoir en fait redorer en fait cette image?
Oui, pour redorer cette image, madame, moi je propose ceci. Et que les Congolais puissent voir grand, puissent passer grand. Est-ce que nos politiciens, là où ils sont, est-ce qu'ils ont vraiment les soucis que nous soyons grands? Parce que ça me fait de la peine quand je vois l'Angola qui aujourd'hui a des fonds, même jusqu'aujourd'hui, il a des fonds sur le plan intellectuel, l'Angola dépend encore de la RDC. Les dirigeants de l'Angola ont été formés en RDC. Comment les Angolais peuvent produire des 40 millions, 30 milliards de dollars et nous qui les avons formés, et même la plupart des professeurs aujourd'hui en Angola, ce sont les Congolais, nous ne savons pas produire tel que les Angolais. Les autres sont les produits. Alors, cette grandeur doit venir de l'intérieur, que nous puissions passer grand, que nous arrêtons de réfléchir autour de notre
Merci beaucoup, Glory. Vous pensez que nous devons penser grand, avoir une certaine grandeur d'esprit? Vous avez aussi ajouté qu'il faudrait lutter contre la corruption. Merci pour votre intervention. Bonjour, Serge.
Et bonjour, Marie-Chantal.
Serge, on vous écoute. Nous parlons plus des perspectives d'avenir. Nous savons que nous avons une longue histoire. Nous sommes passés par plusieurs crises. Nous sommes passés par des élections. Et après, il y a aussi cette crise sociale que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Quelles sont les perspectives d'avenir? Aujourd'hui, nous parlons politique étrangère. Vos propositions?
Oui, merci beaucoup, Marie-Chantal. Depuis ma mort, je tiens à vous remercier de cette opportunité dont vous nous offrez au parti. Et si je vois comme perspective d'avenir en termes de politique étrangère avec les pays voisins, les pays qui sont au-delà de la frontière, je pense que nous avons à fournir vraiment un effort pour arriver à relever ce défi et voir. Donc, comment fournir des
Quels sont ces efforts que nous devons fournir?
Oui, les efforts sont notamment une bonne politique différente, définie ainsi au plan interne, mais aussi des mesures concertées qui pourront aider à ce que celles qui se retrouvent à l'étranger, par exemple, nos ambassadeurs, puissent trouver aussi un salaire qui pourrait les aider, des conditions qui seront peut-être réunies, pour trouver aussi des prestations qui seront meilleures. Et je remarque que l'on oublie que la politique est intimement lié par l'économie. Car disons, c'est les statistiques qui déterminent la situation sociale. Mais s'il faut voir comment notre économie s'est comportée jadis, donc dans les années 1960, je pense qu'il y avait une certaine amélioration et il y a eu aussi plusieurs difficultés qui ont émaillé dans cette économie. Mais il faut noter quand même des avancées significatives qui sont passées d'autres ministres dans les années 1990 et jusqu'en 2000. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons combiner avant que notre économie avec cette politique.
Merci.
Et cette économie devait aussi prendre toute une partie d'éléments, notamment par exemple la production d'actifs de secteurs, qui sont dans les secteurs miniers et dans les autres secteurs, principalement de l'agriculture. Je pense que ce seront des éléments qui pourront faire accepter aujourd'hui cette politique étrangère, puisque c'est une image acceptable de soutenir par national et international.
Merci beaucoup, Serge. Vous pensez qu'il faudrait améliorer notre économie parce que l'économie est liée à la politique étrangère. Merci, Serge, pour votre intervention. Bonjour, Mauricio.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Béni. On vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Oui, je voulais d'abord aborder, en abordant cette question, je voulais aborder dans trois sens.
Mm-hmm.
D'abord, premièrement, depuis d'abord, je voulais m'enteler sur ma sécurité. À l'âge des armes nucléaires, biologiques et chimiques, l'avenir de l'humanité n'était pas des médecins de la paix entre les grandes puissances.
Mm-hmm.
Dès lors, aucun État ne peut assumer seule la défense de sa sécurité et de son interdépendance. Tous les États sont imprimés dans un réseau dense et complexe d'interactions qui conditionne leur taux de chômage ou d'inflation, le prix de leur matière première, la nature des produits manufacturés qui l'importent.
Oui, Mauricio, allons-y aux propositions.
La répartition des richesses sur le plan planétaire. Les relations internationales ici créent des mécanismes de coopération qui permettent la croissance économique et qui favorisent au contraire le développement. En définitive, on pourrait dire l'évolution des États et les sociétés n'est pas intelligible sans référence aux relations internationales. C'est la raison pour laquelle les relations internationales tiennent une place essentielle pour l'évolution des États que nous sommes en train de vivre avec eux. Pour faire évoluer ce pays, la République démocratique du Congo, nous disons que les relations internationales ont une place très essentielle.
Oui, mais que faut-il faire, en fait, pour que, après 50 ans, pour que nos relations, notre politique étrangère puisse évoluer dans le bon sens? Vous avez évoqué plusieurs théories, maintien de paix, répartition des richesses, donc vous avez fait allusion à la mondialisation, mais qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour la RDC 50 ans après?
Et c'est quand après ici, il fallait d'abord faire une petite évaluation, voir le bilan, depuis dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC a donné sur les places planétaires, qu'est-ce qu'il faut faire. Il fallait maintenant étudier des mécanismes propres qui aideraient ces pays à se décider dans le concert de la société que nous voulons, que les décideurs politiques puissent vraiment prendre au sérieux la place de la RDC dans les relations internationales.
Merci Mauricio pour votre intervention. Nous allons prendre l'honorable Henri Thomas Lokondo tout juste après cette petite pause.
Parole aux auditeurs.
Bonjour honorable Henri Thomas Lokondo.
Bonjour madame, ce n'est pas l'honorable Henri Thomas Lokondo.
Oui.
Mon ancien collègue, c'est plutôt l'honorable Henri Mukachung.
Oui, c'est monsieur Henri
Mukachung.
Merci pour votre participation à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de politique étrangère. Nous avons invité pour nos auditeurs monsieur Raymond Ramazan Baya. Il est sénateur et ancien ministre des Affaires étrangères. Tout juste après vous, il pourra réagir par rapport à toutes les préoccupations de nos auditeurs ainsi que les propositions que nos auditeurs nous ont faites. Honorable Henri, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour une politique étrangère de la RDC 50 ans après l'indépendance?
Merci madame. Madame, à titre de considération, je dois vous dire que la politique étrangère d'un pays dépend d'abord de la capacité de la force militaire de ce pays-là. En second lieu, elle dépend de la santé économique du pays qui entraîne la santé de la monnaie. Pour notre cas, étant donné que nous n'avons pas la capacité militaire, ce qui fait que notre pays, partout est envahi par des gens qui viennent s'installer chez nous, exploiter nos richesses comme ils veulent, eh bien, il y a un problème. De l'autre côté, sur le plan économique, étant donné que nous n'arrivons pas à imposer une bonne gestion de notre économie, de nos minéraux, de nos minerais, de nos capacités agricoles, tout ça, eh bien, il y a un autre problème. Tous ces problèmes ne peuvent être résolus en principe, pourtant le pays est géré par des véritables hommes d'État. C'est-à-dire des hommes qui ne pensent pas seulement à eux-mêmes aujourd'hui, mais qui projettent, qui planifient, qui programment des actions pour l'avenir du pays. Mmh. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Et avec ces deux acteurs-là réunis, nous aurons une politique étrangère qui pourra intéresser la plupart des zones de pays voisins, la plupart des pays avec lesquels nous allons entrer en contact pour cette fameuse politique étrangère-là.
Mmh.
Je crois que le plus important en ce moment ici, pour nous, c'est d'abord de nous concentrer pour pouvoir créer une armée qui puisse, disons, imposer une souveraineté, une stabilité sur l'ensemble du territoire national pour permettre à ce que les activités productives économiques puissent se faire dans la tranquillité.
Oui. S'il vous plaît, honorable Henri, ça signifie qu'on essaie de vous suivre, donc pour l'instant, la RDC est en position de faiblesse.
Tout à fait, madame. Tout à fait. Mais vous voyez le pétrole à l'est. Vous voyez les minéraux, l'or et tout ça qu'on prend comme si on était dans un no man's land. Mais il faut se prendre de l'argent qui part.
Donc, vous pensez qu'il faudrait d'abord au niveau interne consolider notre politique intérieure, ce qui pourrait avoir de l'influence sur notre politique étrangère. C'est un peu ça, votre point de vue.
Consolider d'abord notre armée, notre police qui impose les lois de la République.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup, honorable Henri, pour votre participation.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Ramazani Baya, vous avez suivi nos auditeurs, les propositions, leurs préoccupations, une réaction par rapport à ce qu'ils disent.
D'abord, je suis très surpris parce que je constate que, alors que les gens ne s'intéressent pas généralement beaucoup aux questions internationales, que nos auditeurs sont très bien renseignés et ont des réactions très pertinentes. Je prends le cas de Jacques, qui est intervenu le premier, qui a constaté le recul de la diplomatie. Je crois que c'est une évidence. Quand nous pensons au passé encore récent, avec des grands noms, des ministres tels Kunguz, Bomboko, des grands diplomates tels que Idunguir, Thomas Kanza, l'Osembe, et d'autres encore, aujourd'hui on ne retrouve plus l'équivalent. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure, par le contexte qui est tout à fait différent. Quelqu'un d'autre a parlé de la vie des ambassades, des diplomates. C'est une réalité qu'on ne peut plus cacher. Et en tant qu'ambassadeur d'abord, en tant que ministre ensuite, je me suis battu pour redonner un minimum de dignité aux ambassadeurs. Quand ils arrivaient aux affaires étrangères en 2004, ça faisait 12 ans, que le fonds ne partait plus dans les ambassades.
Les ambassades.
Donc, pratiquement, nos diplomates étaient oubliés. Comment voulez-vous faire une diplomatie? Comment voulez-vous vous assurer quelqu'un parler de rayonnement à l'extérieur quand vos diplomates vivent dans la précarité, quand ils sont obligés pour vivre de transformer les ambassades en centres ou lieux de trafic?
Oui, il y a que le passeport, en fait, qui
arrive, mais pas que le passeport.
À nourrir, en fait.
Mais oui, dans certains pays, vous savez, nous avons des communautés importantes. En Belgique, nous avons 25 000 Congolais qui sont devenus belges. En France, je crois qu'il y a près de 100 000 Congolais d'origine, il y a d'autres qui sont devenus français. Ces gens ont besoin de toutes sortes de papiers.
Donc c'est une potentialité en fait.
C'est un potentiel énorme. Ça c'est une autre paire de manches qu'ils n'ont pas abordé. Mais aujourd'hui, il est vrai que les diasporas peuvent apporter énormément de choses dans le pays d'origine. C'est comme ça que, quand j'étais aux affaires étrangères, j'ai créé une direction chargée de la diaspora. Par la suite, on a élevé cette direction en un vice-ministère.
Mais aujourd'hui, nous avons un ministère qui est chargé en fait des Congolais de l'étranger.
Ben, ça a disparu. Moi, j'ai déploré que ça disparaisse. C'était Mme Chomba qui était à la tête de ce ministère. Mais ça a pratiquement disparu. Et là, quand on parle de recul, je pense que ça, c'est un recul. Ça montre qu'on accorde moins d'importance à la diaspora. Or, au jour d'aujourd'hui, déjà, elle apporte pas mal de choses. Et demain, elle aura plus de pouvoir d'achat. non seulement elle enverra des petites voitures, des petites sommes d'argent aux familles, mais elle pourra intervenir dans le développement économique. Les études de l'OCDE ont montré que pour beaucoup de pays, les envois, les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que l'aide obtenue de pays développés. Donc ça, vous parlez de perspectives d'avenir, je pense que c'est une donnée dont notre diplomatie devrait absolument tenir compte. Oui, mais les Amis ont dit des choses très justes également en disant qu'il n'y a pas de politique étrangère forte sans une armée forte. Il n'y a pas de politique étrangère forte sans une capacité économique suffisante. Vous ne rayonnez à l'extérieur que lorsque, à l'intérieur, vous menez une action vigoureuse de développement, lorsque vous mettez réellement en valeur votre pays, alors sur le plan extérieur, vous êtes crédible. Il est évident qu'il n'y a pas, on ne peut pas tricher avec cela. Mais on ne peut pas en même temps dire, puisqu'on a une santé économique faible, puisqu'on n'a pas d'armée, elle est toujours en situation de réorganisation, nous ne pouvons pas essayer de mener une politique étrangère forte. On fait avec ça et on essaie de compenser ses faiblesses. Ce n'est pas toujours évident. Je suis d'accord. Je donnais l'exemple de l'Angola. Et nous, il est évident que nous avons perdu un peu le leadership à l'Afrique centrale. Et pour l'avenir, il faudrait que nous puissions...
En étant, en restant réaliste, en connaissant en fait l'évolution économique, parce que là, la RDC est en train de se rechercher sur le plan économique, monnaie faible, pas assez de production, donc on dépend extrêmement de l'extérieur. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui peut être faisable pour qu'au niveau de l'extérieur, la RDC puisse donner une autre image?
Mais la grandeur dont a parlé quelqu'un n'est pas gratuite. Je me souviens quand le jour où Kassaboubou a dit à Lumumba que ce pays est trop grand. Lumumba a dit non, le pays n'est pas trop grand, il est grand, il demande de nous de la grandeur. C'est ça, il faut voir grand, il faut être ambitieux. Je suis d'accord avec beaucoup d'intervenants qui estimaient qu'on manquait d'ambition. Qu'on avait peut-être des ambitions personnelles, mais que nous n'avions pas cette vision forte qui permette de rayonner sur le plan extérieur. Pourtant, on a des atouts que vous avez cités tout à l'heure, un territoire important, une population importante, des conditions de richesse du sous-sol, bien que personnellement, je n'aime pas beaucoup qu'on m'appelle les richesses du sous-sol. Vous savez, ces richesses appartiennent à ceux qui vont les exploiter, à ceux qui ont les capitaux, à ceux qui ont les moyens techniques de les exploiter. Donc, ne mettons pas toujours l'accent sur ça, mais sur les hommes, sur la vision, sur la volonté, sur l'union, l'unité du pays. Mais cette unité ne peut pas arriver tant que, sur le plan interne, il n'y a pas une véritable volonté d'associer tout le monde dans une compétition politique apaisée et transparente. Tout ça, on croit que c'est des choses qui se font comme ça au petit bonheur. Non, ce sont des choses qui ont des conséquences énormes sur la perception que l'étranger a de vous. Lorsque quelqu'un a dit qu'il a honte à l'étranger de voir les commentaires qu'on fait sur le Congolais, c'est parce que souvent, on constate qu'il y a manque de sérieux, il y a manque de persévérance, il y a manque de vision claire, de volonté d'aboutir.
C'est ce que nous voulons devenir. Nous allons écouter Franck depuis l'Autriche, aussi Ladis qui est au bout du fil et Roger.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Franck.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal.
Vous êtes un Congolais, vous êtes à l'étranger. Pour vous, quelle politique étrangère de la RDC après 50 ans d'indépendance?
Ouais, je crois que beaucoup de compatriotes l'ont déjà souligné. L'image extérieure d'un pays dépend d'abord de son image intérieure. Disons que la diplomatie ne peut dépendre d'abord que de la stabilité interne de notre pays. Tant qu'au niveau interne, il y a des histoires, tout marche pas, même au niveau de la diplomatie, c'est vraiment difficile de bien faire représenter le Congo. Parfois, ça nous gêne, c'est quand on parle du Congo, de notre Congo, quand on parle du Congo démocratique, il faut être courageux pour accepter certains défis. Parfois, on nous fait savoir que vous avez des hommes intelligents, vous avez un pays beau, vous avez un pays riche, mais pourquoi ça ne marche pas? Donc, quelque part, nous devons nous dire aussi en toute sincérité qu'il nous faut des hommes crédibles pour représenter notre pays, qu'il nous faut une manière, une vision de travail. Et il faut avoir des ambitions qui sont mesurées par rapport à nos besoins. Et je crois que tout cela est possible sans patriotisme, parce que c'est d'abord le patriotisme qui doit caractériser ce élan, d'être bien vu par l'autre. Alors, si ce élan du patriotisme n'est pas bien développé au niveau des institutions en place, même au niveau de la diplomatie ici, ça ne va pas marcher. Je crois que c'est d'abord un problème qu'on le fait 30 ans après, comme l'image de notre pays à l'étranger. Je ne dirais pas que c'est une image vraiment médiocre, mais c'est une image qui n'est pas encore mieux par rapport à certains pays comme le Rwanda ou bien comme l'Afrique du Sud, mais non comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest, et même l'Angola nous dépasse sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Et je crois que ça doit être un problème congolais. Nous devons maintenant arriver à nous remettre en question. Pourquoi ça n'a pas bien marché pendant 50 ans, alors que nous avons des possibilités pour faire marcher notre pays par rapport à son emplacement géographique, par rapport à nos rapports historiques avec certains grands puissances de ce monde. Mm-hmm. Je crois que c'est vraiment un problème congolais. Il faut qu'on arrive à nous intéresser davantage. Mm-hmm. Ça ne va pas, il faut qu'on se l'église. Ça ne va pas, et qu'on arrive à changer ce qui ne va pas.
Merci beaucoup.
Dans la plupart des cas, nous parlons, mais il n'y a pas vraiment de changement.
Pas de changement. Merci beaucoup, Franck. Vous pensez qu'il faudrait une remise en question, mais aussi pouvoir cultiver cet élan patriotique. Bonjour, Ladis. Ladis?
Oui, allô?
Mais vous êtes en Bougimaï, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il faudrait pour une politique étrangère meilleure après 50 ans d'indépendance?
Merci beaucoup, madame, pour la parole que vous venez de m'accorder. Mm-hmm. Je sais que les relations internationales ou diplomatiques, c'est une des missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire les missions de souveraineté d'un État.
Mmh.
Alors, nous connaissons sur le plan international ou diplomatique, ce sont des relations de puissance. C'est juste la puissance qui compte beaucoup dans la scène internationale. Plus la considération que vous avez au niveau interne, c'est cette considération qui vous sera due au niveau international. Donc, si vous êtes faible sur le plan local, même sur le plan interne, vous n'allez pas apporter quelque chose de conflictant.
Mmh.
Alors, on apporte dans cette émission, donc j'ai passé 50 ans, l'échec, 50 ans de désolation. Alors, c'est à partir du moment que nous devons maintenant prendre de nouvelles perspectives pour les jours à venir.
Mmh.
Et dans le temps, le Congolais ou les Zaïrois avaient une bonne réputation dans le monde, à l'Afrique centrale et partout ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons perdu cette image de mal que nous avons dans le temps. Alors, nous devons maintenant chercher les moyens comment restaurer cette diplomatie dès maintenant. Mais je veux aussi que nous puissions chercher notre politique au niveau interne.
Mm-hmm.
Et aussi voir au niveau international, partout nous avons des représentations ou des ambassades. Est-ce que c'est ces pays avec qui nous collaborons, si nous avons un apport conséquent dans notre pays, si nous avons des difficultés à supporter ces ambassades, nous devons supprimer certaines ambassades, soit de les associer à un pays qui va contrôler quelques ambassades dans une région.
Mm-hmm.
Par exemple, ici à côté du Rwanda, je ne vois pas l'importance d'avoir une ambassade au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda. Donc, chercher une ambassade soit au Rwanda, au Burundi, mais qui va superviser tous les pays de l'Est, qui sont les pays qui sont les pays étrangers. Ce sont les dépenses qu'il faut diminuer, puisque nous n'avons pas de moyens, et cette considération, le manque de moyens, c'est aussi diminuer notre considération, notre personnalité.
Mmh.
On voit que vous êtes insignifiant, vous n'avez rien, et sur le plan international, si vous devez apporter, donc vous n'avez rien à apporter sur le plan international, et vous aurez moins de considération, madame.
Merci beaucoup, Ladis, pour votre intervention. Bonjour, Roger.
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes à Kananga, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Oui, avant de donner mes propositions, madame, moi je dirais que la diplomatie, l'image que la diplomatie congolaise donne actuellement dans le monde, c'est l'image même de sa vie interne, de sa politique interne. Quand déjà, sur le plan interne, nous ne savons pas résoudre certains petits problèmes ou grands problèmes que nous avons, comment voulez-vous que nous puissions entrer dans le concert des nations? Allô?
Oui, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible que vous puissiez parler un peu plus clairement parce qu'on ne vous entend pas très bien? Et si votre téléphone, vous l'avez mis sur écoute externe, que vous pouvez éteindre et parler carrément tellement.
Oui, okay, merci beaucoup. Je dirais que
voilà, merci pour améliorer.
Si nous ne savons pas déjà résoudre certains petits problèmes que nous avons sur le plan interne, comment voulez-vous que nous puissions accéder au concert des nations? Mais si déjà nous ne savons pas payer nos diplomates, si déjà nous ne savons pas entretenir nos représentations externes, comment voulez-vous que nous puissions avoir une politique correcte?
Mm-hmm.
sur le plan international. Donc, quelque part, on a un problème de dirigeants, on a un problème de volonté. Et en plus, ce problème de diplomatie congolaise date depuis le commencement même des choses entre notre pays et le Belge. Vous sentez que de temps en temps, il y a conflit entre le gouvernement congolais et le reste du monde. Donc, quelque part, il faudra que nous puissions nous remettre en cause, que nous puissions faire un état de lieu, recommencer tout à l'intérieur, et on verra la suite que nous pouvons donner au monde extérieur.
Merci Roger, améliorer notre politique intérieure en vue de pouvoir avoir une meilleure politique étrangère. Merci pour votre participation. Bonjour, honorable Henri Thomas Lokondo.
Bonjour.
Enfin, on a pu vous avoir au bout du fil. Aujourd'hui, nous parlons de la politique étrangère de la RDC 50 ans après l'indépendance. Vous avez été un ancien vice-ministre des Affaires étrangères ici en RDC. Quelles sont vos analyses pour pouvoir améliorer en fait cette politique étrangère 50 ans après l'indépendance?
D'abord, il faut faire un postulat. Hein. Comme les amis l'ont dit, là, vous savez, comme on dit, la diplomatie, c'est d'abord le reflet de la situation interne d'un État.
Mmh.
Et moi, parce que j'ai dit que le bilan de nos 50 ans d'indépendance est globalement négatif, cela veut dire également que la diplomatie de notre pays n'a pas été à la hauteur de nos ambitions et de nos intérêts. Étant donné que le cas de l'indépendance de l'État, la prospérité de l'État dépend également de ses relations diplomatiques, économiques et financières avec le monde.
Mm-hmm.
Donc, je veux parler de relations internationales au sens large.
Mm-hmm.
C'est un segment très important dans la vie d'un État. Malheureusement, comme je venais de le dire pendant 50 ans, pendant plusieurs années, notre diplomatie a été plus une diplomatie de simple représentation qu'une diplomatie de développement, c'est-à-dire une diplomatie au service de l'économie et du commerce.
Mmh.
C'est le déplacer l'homme congolais au centre de son action, pour sa sécurité et son bien-être. On aurait dû avoir, pendant 50 ans, ici, une diplomatie ou une politique de coopération fondée sur l'identité ou l'identification d'intérêts communs et la mise en œuvre commune de priorité de développement avec nos partenaires. Mais ce n'a pas été le cas.
Mmh.
Il faut maintenant localiser les choses. J'ai entendu un ami qui a parlé de la suppression des postes diplomatiques de certains. Parce que la diplomatie, nous l'avions préconisé avec mon titulaire à l'époque, le vice-premier ministre Kamal, compte tenu des moyens, comme il a dit.
Mmh.
Et nous avions fait aussi, c'est la qualité aussi des diplomates. Si vous voulez avoir de l'argent, vous voulez avoir plus, quand vous n'avez pas les gens qui viennent faire la diplomatie, ça ne va pas, parce que la qualité de nos diplomates, c'est un réalité.
Mm-hmm.
Parlons voir en poste des gens très compétents, excusez-moi, mais c'est limité.
Mm-hmm.
Et ça a eu encore un coup avec la politisation au sens des postes diplomatiques.
Mm-hmm.
On abandonne les diplomates de carrière, les gens qui ont été formés, qui ont fait toutes les directions au niveau de la centrale et qui ont été dans plusieurs postes. On les a appelés au profit des frères, cousins, neveux, beau-frère, belle-sœur, tout ça. Tout ça, ça doit être localisé.
Oui. Est-ce que aussi c'est un manque de créativité de nos diplomates?
Oui. C'est de cela que je parle, madame.
Mm-hmm.
C'est de la compétence.
La compétence.
Vous formez les diplomates. Vous savez, dans d'autres pays au monde, on ne voit pas de diplomates partout comme ça. Il y a des diplomates qui sont envoyés que dans des pays, par exemple, africains. Asiatiques ou européens, on se spécialise à partir de la centrale. Hein. Il faut qu'au niveau de la base, les affaires étrangères, qui est l'organisation compétente pour sélectionner les gens qui vont sortir.
Mm-hmm.
Et j'étais très content d'apprendre qu'on a même une académie à la diplomatie. Mais non. Ça, dans votre pays, on va faire sortir une diplomatie employée en janvier, dans une sous-commission, par exemple, du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, ça renforce la compétence, la crédibilité de celui qui va vous présenter. Parce que, comme vous le savez, les diplomates, en dehors du fait que ce sont des étudiants officiels, mais c'est quelqu'un qui représente tout un pays. Donc, on juge les pays à travers un individu. Donc, il faut envoyer des gens en compétence. On a bien posé beaucoup de choses.
Et en plus de cela, madame, comme je disais tout à l'heure, vous savez, en disant que c'est un grand que un grand diplomate disait que les relations internationales, ce sont aussi des relations personnalisées.
Mm-hmm.
Vous ne pouvez pas que quand il a fait toute sa carrière, il a été partout, il a fait des relations, parce que le pays l'a envoyé un peu partout. À un certain moment, vous vous dites que non, celui-là doit rester, puis vous envoyez des inconnus.
Mm-hmm.
Ce qui m'entorse également sur le plan diplomatique.
Les relations personnelles aussi comptent beaucoup pour un diplomate.
On ne pourrait pas envoyer des inconnus pour vous représenter dans les instances internationales.
Mm-hmm.
Parce que la personnalité, elle joue la valeur, c'est bien différent, comme beaucoup.
Oui. En tout cas, merci beaucoup, honorable Henri Thomas Lokondo, pour votre intervention à cette émission consacrée à la politique étrangère de la RDC 50 ans après l'indépendance.
Parole aux auditeurs.
Au papier. 50 ans d'histoire, ça se raconte sur Radio Capi.
Au papier. Monsieur Raymond Ramazani Bayer, vous excusez encore une fois nos auditeurs, vous êtes notre invité au cours de cette émission. On est revenu encore une fois en fait sur cette volonté, le mal qui ronge la politique étrangère de la RDC. Nous savons en fait que les rapports entre États sont basés sur les intérêts. Est-ce que la RDC a quelque chose à pouvoir proposer à l'extérieur?
Mais bien sûr que la RDC a beaucoup de choses à pouvoir proposer à l'extérieur. C'est effectivement la diplomatie, c'est un échange constant. Et comme on dit tout à l'heure, les amis, ça ne se bâtit pas à partir de rien. C'est à partir de tout ce que nous avons comme potentiel économique, richesse du sous-sol. Mais également, nous devons participer à la sécurisation du monde. Il faut que, au niveau de son territoire, au niveau de sa région, la RDC apporte quelque chose. C'est ça qui fait aussi notre importance, parce que nous sommes un pays qui a 9 voisins, qui a une dimension importante. Donc le monde entier attend de nous que nous puissions apporter des réponses concrètes à la sécurisation de la région Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe. Pour le moment, malheureusement, comme l'ont dit les amis, nous n'apportons pas grand-chose. Mais cela dit, moi, en tant qu'ancien responsable des affaires étrangères, et comme mon ami Henri Thomas Lokondo, que je salue en passant, nous ne pouvons pas non plus dire on croise les bras, puisque la politique extérieure, c'est le reflet de la politique intérieure. Donc, on attend que les choses s'améliorent. Je crois qu'il y a un rapport, comment on dit, il y a un rapport dialectique. Tout comme la politique extérieure intérieure influence la politique extérieure, la politique extérieure peut également influencer la politique intérieure. Donc, nous devons faire de notre mieux. On a souligné tout à l'heure la situation des ambassadeurs, des diplomates. C'est une situation que nous déplorons tous. Nous avons une 50aine d'ambassades que nous n'arrivons pas à entretenir. Quelqu'un a proposé tout à l'heure la suppression d'un certain nombre de postes, la rationalisation. Thomas Lokondo, quand il était au ministère avec Kamanda, qui était un de nos grands ministres des Affaires étrangères, il était question effectivement aussi de supprimer un certain nombre de postes. Lorsque j'y étais également, il en était question, supprimer c'est peut-être pas le mot, disons rationaliser. Par exemple, dire que nous avons une ambassade en Roumanie, nous avons une ambassade en Slovaquie. Mais quand on regarde les échanges avec les pays,
presque la même politique.
Mais oui, et il y a très peu d'échanges, il y a très peu de visites de personnalités, il y a très peu de Congolais qui vivent là-bas. Mais quand vous allez en Turquie, le volume d'échanges a beaucoup augmenté. Il y a énormément de visites turques qui viennent, des visiteurs turcs qui viennent.
Et même le chef de l'État
est passé à pas longtemps. Depuis des années, on essaie d'ouvrir une ambassade en Turquie, on ne le fait pas. J'ai dit, mais il faut déplacer l'ambassade qui est à Bucarest vers Ankara ou Istanbul, donc vers Ankara, c'est la capitale, quitte à ce que cette ambassade, à partir d'Ankara, s'occupe également de Bucarest. C'est vrai qu'il y a quelques échanges avec la Roumanie, mais c'est trop faible actuellement. Nous avons quelques étudiants, les Roumains font quelques petits barrages ici, ça ne suffit pas pour un pays qui a des ressources aussi limitées que nous, de pouvoir faire face à cela. Donc il y a besoin de rationalisation. Mais il est évident que le ministre des Affaires étrangères, les responsables du ministère subissent énormément de pression. Mmh. C'est aussi la vie des gens qui sont là-bas, qui s'accrochent. Donc vous trouvez des diplomates qui sont là depuis 20 ans, qui en fait ne font plus aucune diplomatie.
Donc,
mais
ils n'ont plus l'esprit créatif.
Ils n'ont plus
dans quelle mesure vendre le pays ou essayer d'améliorer
Ils sont même étonnés de recevoir certaines notes d'instruction parce qu'ils ont oublié.
Comme
on les a oubliés, et aussi ils ont oublié.
Ils ont oublié.
N'est-ce pas?
On va suivre aussi, Dr. Richard de Kinshasa, on va revenir à vous.
De rationalisation se pose également quant à notre participation dans les organisations internationales spécialisées et les organisations régionales. Il y a beaucoup de dédoublements et peut-être que là aussi, il faut un petit peu de rationalisation.
Nous allons revenir à vous pour pouvoir conclure cette émission, aussi donner votre dernier avis par rapport à tout ce que les auditeurs nous ont dit au cours de cette émission. Bonjour, Dr. Richard.
Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour aussi à M. Raymond Ramazel Faya.
Bonjour.
Dr. Richard, quelles sont vos propositions?
Je vais droit au but, félicitations à tout le monde qui a parlé. Moi, je voudrais que nous ayons une diplomatie de développement du Congolais et aussi de protection du Congolais. Pourquoi je dis ça? J'ai vu le président Sarkozy monter dans un avion pour un problème d'un Français. Je n'ai pas vu les dirigeants congolais se déplacer pour les Congolais malmenés à gauche, à droite, je ne cite pas le pays. Et je prends l'histoire à témoin. Votre invité que je salue avec beaucoup de respect parce que je connais ses compétences intellectuelles et puis sa moralité, a fait la prison dans le pays d'accréditation. Parce qu'il a fait un accident, appelé sous quel ton lui-même peut le dire, par le feu président Mobutu, il a fait du 200 à l'heure, et deux enfants étaient cognés, et voilà, il fait la prison. Quelle était la protection du Congolais? Lui-même, il est un symbole d'un pays qu'il avait négligé.
Merci. Merci, Dr. Richard, pour votre intervention. Bonjour, Norbert.
Oui, bonjour, Marie-Chantal.
Vous êtes le dernier intervenant de cette émission. Quelles sont vos propositions?
Oui, je vais juste demander d'abord bon anniversaire à tous les auditeurs de la radio Kati. Le problème qui est là, c'est le problème de la sécurité, dans notre pays et à l'étranger aussi. Mm-hmm. Et aussi, la collaboration entre notre président et à l'extérieur. C'est ce que je dis. À part ça, il faut qu'on renforce encore l'armée. Comme l'honorable vient de le souligner, il faut qu'on renforce l'armée. Vous voyez, l'armée est devenue trop faible au Congo.
Merci.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler des relations étrangères.
Merci beaucoup, Norbert. Vous intervenez à partir de Karanga. Malheureusement, Arsène de Kikuit, Adrien de Karanga et Kakoulé de Béni ne pourront pas intervenir au cours de cette émission. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais aussi, docteur Gary, qui nous écrit à partir de Kindu, il dit quelle diplomatie congolaise, 50 ans après l'indépendance de notre pays, qui est encore embryonnaire, et croire que notre pays soit vraiment en train de mener une bonne diplomatie avec les mains vides. Le monde étant fondé sur les intérêts, nous devons avouer que notre pays, jusque-là, n'a rien. Et donc, nous faisons une diplomatie en position de faiblesse, toujours en train de demander. Dans ces conditions-là, croyez-le, il est totalement difficile de convaincre beaucoup de gens, mais nous devons savoir que ce pays a des potentialités énormes, c'est-à-dire que nous pouvons faire quelque chose de bien pour ce pays, et il est alors demandé à tous les Congolais de s'unir comme un seul homme autour de nos dirigeants actuels pour remettre l'image de ce pays à l'échiquier national, sur l'échiquier national et international, la seule voie pour attirer tout le monde vers nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous écoute pour conclure aussi une réaction par rapport aux interventions de nos auditeurs.
Oui, rapidement, je voudrais remercier le Condo d'avoir signalé l'Académie diplomatique que j'ai créée en 2005 avec le concours des amis sud-africains, sans lesquels cette académie n'aurait pas existé, parce que le gouvernement congolais n'était pas très favorable. Mais je remercie tous les successeurs de lui avoir accordé l'importance qu'elle méritait, parce que sans la formation aujourd'hui, nos diplomates ne pourront pas faire face aux grands problèmes internationaux. Il faut un diplomate qui soit bien formé, qui connaisse pas seulement la diplomatie, mais les réalités de son pays, les réalités internationales. Alors pour le professeur, le docteur Richard, je le remercie aussi d'avoir rappelé cette histoire d'accident de mon pont, mais j'aimerais dire que je n'ai jamais fait la prison. Il faut que le compatriote le sache, parce que beaucoup de gens croient que j'ai fait la prison. j'étais condamné avec sursis, mais je n'ai jamais été en prison. Mon pays ne m'a pas abandonné non plus. Je n'aurais pas accepté de retourner, je ne serais jamais retourné. Le ministre des Affaires étrangères à l'époque était maître Kamanda, je suis resté avec lui pendant 2 heures. Il a voulu me dissuader de ne pas rentrer. J'avais la possibilité de ne pas rentrer, mais j'ai estimé que c'était un problème de conscience personnelle. C'était au-delà du droit. Je suis protégé par l'immunité, évidemment, qui est accordée au pays. Et dès lors que le pays accepte à la demande de l'intéressé, c'était mon cas, pour des raisons essentiellement morales et éthiques, je précise, j'ai été autorisé et je suis rentré à ma demande avec un passeport ordinaire. Parce que si j'avais mon passeport diplomatique, on ne m'aurait jamais jugé. Je voulais apporter cette précision. Alors, bon, évidemment, pour le reste, je suis d'accord avec tous les amis. Je crois que pour l'avenir, nous devons définir beaucoup mieux notre diplomatie, ce que nous souhaitons sur le plan extérieur. Nous devons déterminer le format des ambassades conformes à notre vision, mais aussi conformes à nos possibilités. Nous devons participer aux organisations internationales et surtout régionales, d'intégration régionale, en sachant ce que nous voulons. Nous avons signé aujourd'hui plusieurs accords dans le cadre de la CAC, dans le cadre du COMESA, dans le cadre de la SADEC. Tous ces accords prévoient l'intégration régionale, donc des marchés communs, la suppression des droits de douane. Est-ce que nous serons à même, d'ici 5-10 ans, quand il faudra supprimer les droits de douane? Est-ce que nos industries sont-elles capables de supporter cette concurrence qui va être énorme avec les pays voisins? Qu'est-ce que nous visons exactement? Nous n'allons pas commencer à fermer les frontières, contrairement à l'évolution du monde actuel. C'est toutes ces questions, je pense, qui doivent faire l'objet d'un débat plus sérieux au niveau des animateurs de relations extérieures et de l'ensemble des acteurs politiques pour définir une politique qui soit effectivement, qui tienne effectivement compte de nos intérêts.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Raymond Ramadani Baya, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénateur, ancien ministre des Affaires étrangères et aussi ancien ambassadeur. Merci aux auditeurs pour leur intervention. Ils peuvent continuer à réagir en postant leur réaction sur www.radiocapi.net dans la rubrique Parole aux auditeurs. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Parole aux auditeurs. Ce sera le jeudi 1er juillet. Nous allons clôturer la série d'émissions spéciales sur le cinquantenaire. La question, qu'est-ce qui s'est passé dans votre milieu le 30 juin? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiotapis.net. Merci à Christine Coutou et à toute l'équipe Parole aux auditeurs pour la production de cette émission et à la prochaine.